RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Arnaud Souk.
L'after sur jusqu'à minuit sur... Ça fait bizarre hein, de revenir ici, tu vois, j'avais oublié de, d'allumer le petit micro. Jusqu'à minuit donc sur RMC avec Ali Benarbia et avec Jonathan McCarty. On continue évidemment à débriefer cette victoire de l'AS Monaco face à Lille en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Des buts de Motiba pour Lille, égalisation de Ronny Lopez pour Monaco. Et c'est Jovetic qui, dans son style tout à fait caractéristique, a donné la victoire justement au Monégasque. Quand je dis style caractéristique, c'est le petit but avec un petit ballon piqué,
facile, subtil,
dont il est coutumier. Voilà, on a encensé un petit peu quand même le parcours de l'AS Monaco. On accueille Pierre-Antoine, ça fait un petit moment qu'il nous attend au 32-16, supporter de l'ASM. Salut Pierre-Antoine.
Bonsoir messieurs.
Salut Pierre-Antoine.
Et merci d'être avec nous. Je t'en prie,
pas de souci.
Ton débrief.
Alors, moi, je suis impressionné au contraire par la prestation monégasque ce soir. J'ai trouvé qu'on a manqué un peu de tout. Donc effectivement, il y a Fabinho pas là. Il y a la trêve internationale, les joueurs veulent peut-être pas trop se blesser. La Coupe de la Ligue, je sais pas quelle excuse on peut sortir. Mais en tout cas, c'est vraiment pas terrible. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu jouer la SM comme ça, donc vraiment aussi brouillonne. Alors en face, il y a une équipe qui a quand même le couteau entre les dents, qui veut sauver. Et ça, je veux bien l'entendre aussi. Mais moi, j'ai trouvé ça, la prestation ce soir, pathétique. Enfin, un peu pathétique, ouais.
C'était au milieu de terrain. Quand ils jouent ensemble, Moutinho et Tielemans, je trouve que c'est pas du tout complémentaire. Tu perds tout le contrôle à la récupération. Alors oui, techniquement, c'est pas mal. La preuve en est sur le second but de Monégasque avec la passe de Moutinho qui est vraiment délicieuse. Mais très franchement, à la récupération, tu t'es fait broyer en début de match parce que, voilà, je trouve que les deux n'ont pas le profil pour être alignés côte à côte.
Et je sais pas ce que vous en pensez aussi, mais j'avais l'impression que l'équipe était coupée en deux. Alors t'avais Ronny Lopez qui essayait de se démener tant bien que mal. Alors heureusement qu'il y a Jovetic qui est rentré pour apporter, comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, une petite touche technique.
Et
du liant, exactement. Mais c'était quand même des longs ballons à chaque fois où il devait faire des déviations du bout du pied ou contrôle de la poitrine entre trois défenseurs et voilà. Moi, je pense que ce soir, si on a une équipe en face un peu plus en confiance, un peu moins échaudée par les événements qui se sont passés la semaine, et on les connaît tous, bah, moi, je pense que ce soir, on peut prendre une valise, hein, on peut prendre 0-3. Lille, c'est quand même une... c'est vous qui en parlez tout à l'heure, je suis pas supporter lillois et je la suis pas trop cette équipe, mais je trouve qu'ils ont quand même des bons joueurs.
Eh ben oui.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça joue pas si bien que ça au final.
Bah, c'est devant,
ils ont raté.
Le problème.
Ah non, mais ils ont raté des choses, mais c'est pas possible.
Bah, Pierre-Antoine, ils arrivent à avoir le contrôle au milieu de terrain parce qu'ils ont des milieux de terrain de qualité, que ce soit Thiago Maia, Thiago Mendes, Amadou, qui est vraiment un super joueur, mais c'est devant, il a du mal à trouver la formule, Ali le disait très bien, il n'y a pas de changement de rythme, les déplacements des attaquants sont incompréhensibles, donc, c'est ça qui fait que ça reste.
Et puis les joueurs ne jouent pas à leur poste.
Oui, aussi.
Tu vois, Pépé,
Thiago Mendes sur un côté, je comprends, j'ai pas
Thiago compris. Mendes, non, moi non plus. Pépé, il joue attaquant de pointe tout seul.
Ouais. Par rapport à ce que tu disais, Pierre-Antoine, mais... tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, donc sur le manque de Lyon Monégas, c'est que il est porté disparu, Thomas Lemar. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est son frère.
Il a du mal à revenir.
Il a été atroce ce soir.
Mais par contre,
ça fait un petit moment qu'il est,
depuis sa blessure, il a du mal à revenir, retrouver le rythme. Et le problème, c'est que quand tu tombes dans une équipe qui, en plus, elle, ne retrouve pas le rythme, parce que, la défense, là, j'ai vu aujourd'hui la défense qui était haute.
C'est cata.
Glick, Jemerson,
même
si Dibé d'habitude qui est très très bon, on aurait dit qu'ils étaient complètement endormis.
Qui a pas été le plus mauvais ce soir.
Non,
décisif sur la.
Non, mais c'est pour ça qu'il en général est très bon. Je veux dire, là, il est devenu moyen.
Non, mais Glick, Jemerson et Radji, c'est terrible.
Et rajoute même Subasic.
Subasic,
il s'est mis.
Et t'imagines que malgré tout, tu cesses de gagner tes matchs.
Mais oui, et puis, c'est vrai, mais on a l'impression que c'est des groupes de joueurs qui défendent. Je sais pas si vous en êtes rendu compte en regardant
quand
le match.
Quand Fabinho n'est pas là, c'est exactement l'impression qu'on
peut
avoir.
Non, mais c'est pas intelligent,
exactement.
Il manque le cerveau.
Il manque le joueur qui fait au milieu de terrain, qui fait le pas en avant pour que le bloc redescende et soit plus compact. Le joueur qui fait des lignes pour être plus resserré, c'est Fabinho.
Parce que la saison prochaine, il sera plus là. Et tu vas le remplacer. C'est très inquiétant ce qu'on a vu ce soir quand même. Sans lui, même si on sait que c'est un super joueur.
Si je puis me permettre de te rassurer, Pierre-Antoine, je sais pas dans quelle perspective tu vois que c'est inquiétant. Finalement, tu restes quand même sur un parcours absolument hallucinant. T'as plus perdu un match en Ligue 1 depuis le 29 novembre. Ça fait quand même 15 matchs.
Avec Fabinho.
15 matchs sans défaite. Et puis surtout, quand tu regardes le calendrier d'ici la fin de la saison, bon, certes, tu vas affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en finale de Coupe de la Ligue, mais pour le reste, c'est déplacement à Rennes, tu vas recevoir Nantes, tu vas aller à Guingamp, tu vas recevoir Amiens, tu vas aller à Caen, tu vas recevoir Saint-Etienne et tu vas aller à Troyes.
Franchement,
enfin, je veux dire, là, pour la Ligue 1, franchement, il y a aucune inquiétude à se faire, Pierre-Antoine.
C'est des matchs pour le maintien.
Oui, mais enfin bon, attends.
Non, mais ces équipes-là vont pas essayer de bien jouer, elles vont essayer de gratter le maximum de points. C'est pour ça.
Monaco ce soir a quand même été fantomatique et réussi
toujours
à mettre
parce qu'elle est efficace
à cette équipe de Lille qui pour le coup joue
parce que Monaco a des individualités qui se détachent.
La différence.
Arnaud, tout le disait bien, il y a des à chaque période, il y a eu des joueurs qui ont fait que Monaco a été, enfin, qui ont été décisifs pour que Monaco gagne ses matchs. Et là, encore une fois, tu regardes le talent de Rony Lopez, le talent de Jovetic. Et tu vois que c'est les deux qui marquent le but, voilà. Bon bah, c'est très bien, c'est très bien.
On est avec Pierre-Antoine.
C'est un très beau parcours.
Pierre-Antoine, supporter de l'AS Monaco, dans l'after au 32C sur RMC BFM Sport. Pierre-Antoine, j'aurais te demander un petit peu ce que tu penses également de la performance de Radamel Falcao, parce que je le disais, il y a eu des hommes en forme.
Invisible.
En l'occurrence, j'en parlais en antenne. Alors, il revient de blessure. Hein, aussi, ça fait un mois, et puis sa saison, enfin, c'est comme toutes les saisons de Falcao, elle est toujours tronché par quelques blessures. tronché par quelques blessures. Et forcément, il a du mal à revenir dans le rythme à chaque fois, j'ai l'impression. Il y a toujours un ou deux matchs où il est complètement à côté.
Il a une petite échéance au coin de sa tête aussi, je pense.
Tu penses que la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde, il se réserve un petit peu à Radamel Falcao, il n'a pas envie de revivre 2014, mais s'était blessé en Coupe de France.
Mais surtout qu'il revient de blessure, donc vaut mieux qu'il y aille progressivement, qu'il prenne un choc quand il revient pas bien physiquement. Parce qu'en général, quand tu reviens de blessure, t'as un petit peu tous tes muscles qui sont, je dirais pas à la merci de coups, mais ils ont moins l'habitude de pouvoir renvoyer les coups. Un joueur intelligent évite les contacts quand il a eu ça, surtout qu'il veut faire une belle Coupe du Monde. Et ça, c'est important pour lui. Donc, ces matchs-là contre Lille que tu gagnes, ou qui ne sont pas aussi importants pour l'AS Monaco, autant éviter les contacts. Et quand un attaquant comme Falcao ne joue pas à fond physiquement, automatiquement, c'est pas le vrai Falcao qu'on connaît.
Ouais, c'est pas le vrai Falcao qu'on connaît. Il a pu marquer un but, je crois, depuis
quand
il
est pas à fond, c'est la meilleure façon de se blesser aussi.
Pardon, Pierre-Antoine ?
Quand t'es pas à fond, c'est la meilleure façon de se blesser aussi. Donc, il a tout intérêt à
manquer de rythme. Il a assez d'expérience, en fait, pour éviter et se déplacer de telle façon de revenir à
100%. Après, moi, quand
je pense qu'il passe à la finale aussi, la Coupe de la Ligue.
Et puis, quand il va revenir à un bon niveau physique, on va enfin pouvoir voir le duo qu'on attendait depuis le début de la saison, à savoir Falcao en 9 et Jovetic en 9,5. Et là, attention, on va s'en prendre plein les mirettes parce que je les vois très complémentaires. Jardim n'a jamais disposé des deux en forme au même moment.
Non, tout le monde, même les marques n'étaient pas à 100%, Fabinho non plus.
Bon, Pierre. Mais en tout cas, juste pour terminer, en tout cas, il est juste exceptionnel. Enfin, Jovetic, c'est un bijou. De l'avoir en Ligue 1, je crois qu'on se rend même pas compte de la chance qu'on a parce que.
11 millions.
C'est vrai qu'il est souvent blessé, ça c'est clair. Mais par contre, après, c'est. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'attaquants, quand on les voit foncer vers le but, on se dit, oh, il va la louper, c'est sûr. Lui, on sait que ça va être dedans. Et on sait que ça va être un beau but. Donc, ça fait partie des joueurs qui ont la classe. Et il est agréable à voir jouer. Il est intelligent. Il a des bons déplacements. Enfin, je suis fan. Je suis très, très fan.
8 buts en 14 matchs, c'est quand même pas dégueulasse.
C'est
quand même pas dégueulasse,
effectivement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, d'avoir fait le 36 supporter de Monaco. Allez, je t'offre deux places de ciné pour aller voir Hostile. Voilà.
C'est sympa comme tout.
Ouais, je t'en prie. Salut, Pierre-Antoine. Et à bientôt dans l'after. On accueille Nico. Nico, supporter de Monaco, qui a également fait le 32-16 à 23h09. Salut, Nico.
Bonsoir les amis.
Salut Nico.
Alors cette victoire de Monaco de Buzyn face à Lille en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 te rassure-t-elle, si tant est que tu as eu besoin d'être rassuré d'ailleurs?
Je vais faire comme cette tradition dans l'after, je vais faire mes 3 points, mais rassurez-vous, je vais faire très court. L'essentiel c'est les 3 points, on les a. Navré pour le spectacle, une purge totale. Et niveau caractère, alors c'était un petit peu mieux, je trouvais, sur les derniers matchs précédents. niveau technique et investissement des joueurs du collectif, etc. Sur ce match-là.
Tiens, Nico, oui. Nico, je te coupe parce qu'on a Youri Tillmans, le milieu de terrain de Monaco, en direct.
La coupe Youri Tillmans, tu lui dis.
Et voilà, en deuxième mi-temps, on a rectifié ça. On a resserré le milieu et ça a été mieux. On a marqué le 2-1. Et voilà, on a remporté les trois points qui étaient les plus importants ce soir. Et voilà, maintenant, on peut regarder les autres matchs avec beaucoup de relâchement.
Youri, depuis quelques matchs, on voit un Monaco qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui est au final efficace et qui gagne.
Oui, c'est sûr. Je pense que le plus important dans le football, c'est de gagner les matchs, prendre les trois points. Et nous, on veut absolument faire ça pour être deuxième en fin de saison. Et voilà, je pense que le beau jeu, ça vient avec le temps, avec la confiance, donc il faut vraiment pas s'inquiéter.
Mais vous en gardez un peu sous la semelle? On a l'impression, il y a eu des choix aussi avec Fabinho qui est laissé hors de la feuille de match. On sent qu'il y a cet objectif d'aller gagner la finale de la Ligue et d'être quasiment sûr de finir deuxième, parce que vous êtes sûr de vos forces.
On est sûr de nos forces, oui, parce qu'on est confiant, on a confiance en nos qualités. Mais voilà, je pense qu'on sait qu'on doit travailler à chaque match pour essayer de remporter la victoire. Il n'y a personne qui va nous faire de cadeaux. Et voilà, ce sera à nous à travailler pour remporter nos matchs.
Voilà, Youri Tillmans, le milieu de terrain de l'AS Monaco, international belge, en direct sur RMC depuis la zone mixte. Tiens, d'ailleurs, petit mot sur Youri Tillmans, parce que on l'attendait forcément mieux depuis le début de la saison. Il avait débarqué à Monaco. Il était quand même courtisé par les plus grands, y compris le Real Madrid. Il avait dit, tiens, je vais aller à Monaco.
Il avait bien débuté.
Pourquoi pas? Bon, d'ailleurs, il a que 20 ans, hein, donc
non,
il avait bien débuté. Ça va peut-être être la déception quand même de Leonardo Jardim, dont on a vanté tous les mérites par rapport au fait qu'il était capable de bien manager les jeunes, de les faire monter petit à petit. C'est vrai que c'est un joueur quand même avec lequel il insiste beaucoup.
Non, mais qu'est-ce que...
Depuis
que, on va dire, Jardim est arrivé, t'as eu plein de joueurs comme ça, que Monaco a recruté. Et je te pourrais t'en citer une dizaine qui ont tous mis un an
d'atteindre la saison prochaine.
Et le truc là, le problème qui a avec Simons, c'est qu'on est déçu parce que on voit que c'est un joueur qui a plein de ballons, qui est très bon techniquement, qui a une très belle vision du jeu. Mais quand il est aligné comme ça, par exemple ce soir à côté de Moutinho, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Un milieu quand tu joues en 4-2-3-1 comme ça, le milieu de terrain il marche par paire.
On a le droit d'être légitimement déçu
le milieu de terrain il marche par paire. Et le problème qu'on a vu en première mi-temps, c'est que ni Moutinho ni Tillmans sont un profil de récupérateur pur. Et les deux se marchaient un petit peu sur les pattes et savaient pas qui doit aller au pressing, qui doit pas y aller, qu'est-ce que c'est toi qui doit faire qui doit reculer et te mettre au niveau de tes centraux. Donc forcément c'est difficile et je te trouve un peu sévère avec lui, notamment ce soir. Après, sur la saison, mais il est vrai qu'elle est en
parce que Jonathan, l'aspect récupération, c'est aussi un milieu dont on attend beaucoup de création, c'est aussi un milieu dont on attend de technique,
beaucoup de vissa, de frappe, de buts. Ce soir, quand il joue avec Moutinho, tu peux pas trop en attendre parce que les deux savaient pas situer défensivement.
Oui, c'est pas de ce soir en fait. On le sent, on l'a vu en début de saison, il était plein d'envie et il commençait à montrer un petit peu, et c'est bien, toutes ces qualités qu'il avait montrées à Anderlecht. Et on sent que le joueur sur de lui, balle au pied, récupération, frappe, changement d'aile. Et progressivement, on se rend compte qu'un joueur, quand il n'est pas sûr d'être titulaire, Jonathan, tu peux le mettre à n'importe quel poste, il perd de toute sa crédibilité. La preuve, on oublie ce soir, mais chaque fois, il hésite, il fait des mauvais choix, il se pose des questions, ce n'est plus le même joueur que tu as. Et si la saison prochaine, il débute avec plus d'envie et montrer au coach qu'il est capable d'être titulaire, mais qu'il le prouve, et là, tu n'auras pas le même joueur. Mais pour l'instant, c'est pas le Tillmans qu'on connaît.
Je te dis, regarde par exemple les Bernardo Silva ou Thomas Lemar, ils étaient transparents pendant leur première saison.
C'est pas tout à fait pareil. Il n'arrive pas avec le même bagage du tout. C'est un joueur affirmé qui est déjà international.
Il a 20 ans.
C'est un joueur qui est international. Ça fait qu'il a 20 ans, mais il a 4 saisons pro derrière lui.
Notre ami là, qui est notre ami belge, Sacha, nous avait dit que c'était un très fort potentiel, mais que c'était pas un joueur qui était
progression. Un progression,
forcément.
Après, tu dis ça par rapport à son prix, mais c'est pas de sa faute.
Il a beaucoup perdu.
On reprend Nico qui était au 32-16, supporter de Monaco. Nico, je t'avais coupé en plein dans tes 3 points, donc tu disais l'essentiel c'est les 3 points.
Surtout quand c'est un Tillmans, ce
qui serait super rigolo, c'est que tu sais, souvent quand j'appelle, il y a une interview de Jardim, de Tillmans, de qui tu veux. Ce qui serait super rigolo une fois, c'est que vous disiez à Jardim ou à Tillmans, Jardim, on te coupe parce qu'il y a Nico à l'antenne des RMC. Ça, ça serait super rigolo.
Bon, mais écoute,
sinon, attends, par contre, il y a un
on verra, Nico, on essaiera.
Ouais, on peut tenter. Il y a un point que je voulais soulever avec Ali, parce que nous, Ali, c'est un dieu chez nous. Moi, il y a un truc que moi, je ne comprends pas, et ça a été pourtant essayé maintes fois par Jardim cette saison. Et moi, c'est un poste que je n'apprécie pas, ce joueur qui l'occupe. C'est Thomas Lemar. Thomas Lemar, derrière l'attaquant, ouais, on est d'accord, Jonathan.
Non, non, bien sûr.
Moi, je le préfère à gauche. Il fait beaucoup plus de différence. Il est, sa capacité d'accélération, sa vision du jeu, sa technicité, elle est bien plus intéressante à ce poste-là que derrière l'attaquant où, ok, il va toucher peut-être un petit peu plus de ballons. Effectivement, parce qu'il a peu de déchets techniques, il va donner des ballons corrects, mais ça fait pas de différence. Mmh. C'est stérile, si tu veux. Moi, dans la composition qu'a fait Jardim dans le 11 de départ, ouais, j'aurais laissé Lemar à gauche et j'aurais mis Baldé derrière Falcao. Mmh. Je ne comprends pas cette obstination à faire jouer Lemar en un pseudo 10 je crois savoir qu'il était formé dans ce poste-là, mais pour moi, il ne fait aucune différence dans ce rôle-là.
Mais tu sais pourquoi? Parce que quand il joue avec Ronnie Lopez et qu'il joue avec Baldé, il se met en tête que à prendre entre ces trois joueurs, en rajoutant Lemar, les deux joueurs de côté vont être Baldé et Lopez. Et non pas Lemar. Alors que, à la rigueur, tu dois jouer avec un Baldé qui tourne autour d'un Falcao, à la rigueur, un poste d'attaquant, et avec Lemar d'un côté, Lopez, même si c'est de gaucher, c'est pas un problème.
Bien sûr que non.
Et le problème que Lemar se sent 10 fois mieux quand il part d'un côté ou quand il part plus bas, même au niveau de Fabinho, admettons, que quand il est dans ce poste que très peu de joueurs maintenant savent jouer, qui est derrière les deux attaquants ou l'attaquant, un numéro 10, il y en a pratiquement plus
là,
de joueurs.
Là où il est bon, Lemar, c'est quand il prend de la vitesse.
Non, mais
quand il arrive français.
Non, mais en plus, Jonathan, il y a pratiquement plus de joueurs qui savent jouer ce poste-là.
Aussi.
Entre
c'est vrai.
Les lignes, tu vois.
Parce qu'il faut savoir
et
gérer le
proche.
Tempo. Il faut être assez
exactement.
Intelligent pour gérer le tempo du match.
Et les espaces.
Quand t'accélères, et
les espaces.
Quand t'accélères,
bon.
Quand tu mets le pied sur
ouais,
le ballon.
Exactement.
Et ça, je pense que c'est pas une critique, mais c'est pas son profil.
Non, du tout.
On remercie en tout cas Nico d'avoir fait ce de ses supporters de l'AS Monaco. On rappelle quand même, malgré la colère de Nico, Monaco a quand même gagné 2-1
oui.
ce soir.
C'est ça
face à Lille, en fait. On
ouvre
sur la 30e journée.
Face à Lille, on le dit.
Oui, oui, mais enfin, face à Lille.
Parce que si c'est
oui,
un autre Lille, c'est différent.
Allez, tiens, on accueille Xavier, justement, supporter lillois, qui lui aussi a fait le 32-16. Bienvenue dans l'after sur RMC BFM Sport, Xavier.
Ouais, bonsoir.
Oula, beaucoup de déception dans ta voix, Xavier.
Ah non, j'étais dans la cuisine, j'ai envahi mon salon, mais bon, j'espère ne pas avoir être contrôlé par la police. Non, mais bon, voilà, on part directement. Ce match est assez symptomatique de la saison. On est Monaco qui n'a pas joué, ou je sais pas, qui a jamais entré dans le match. On marque un but, on domine, on marque un joli but, et puis après, Maignan sur son premier arrêt, il dégueule le ballon alors que. Bon, c'est un tir quand même de Lopez qui est assez moyen, au mieux de le sortir et tout, il dégueule le ballon, là, qui marque, terminé 1-1. Deuxième accélération, deuxième but, et puis c'est tout, après on n'a pas. Le problème de Lille, mais bon, ça c'est l'héritage Bielsa quand même, c'est que, on a qu'à regarder contre les très grands, on est moins technique que les grandes équipes, donc on perd parce qu'on n'est pas assez technique. Et puis quand on joue des équipes qui se battent pour le maintien, on n'a pas le mental. Donc on est inférieur. Là, on a perdu Angers parce qu'on n'avait pas le mental. On a perdu Amiens parce qu'on n'avait pas le mental. Ici, on reçoit Amiens à huis clos. Amiens, ils vont arriver comme des forcenés, comme des morts de faim.
Ils vont
nous poser des problèmes. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on est toujours inférieur par rapport à l'équipe. Quand on doit se placer sur le mental devant des équipes qui on est techniquement supérieur à certaines équipes, mais on est inférieur mentalement. Puis comme une équipe de Monaco qui joue à 3 km/h, mais qui a quand même le sens du but, ils ont deux occasions, même pas, parce que Lopez, c'est même pas une occasion,
c'est une très belle occasion, c'est Maignan qui s'y prend mal. Mais l'occasion de Baldé qui lui donne.
Et puis le deuxième but, c'est un cadeau de Benzia, hein.
Ouais.
Après le lancer,
la passe elle est bonne,
Benzia, il a pas le droit de perdre le ballon là où il perd.
Oui, mais c'est au milieu de terrain,
d'accord, mais bon.
Au-delà de la performance du soir des Lillois, va falloir quand même revenir un petit peu sur le parcours, parce que si Monaco c'est 15 matchs sans la moindre défaite en Ligue 1, Lille pour le coup n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Oui. Ça commence un petit peu à piquer, même un seul de ses 10 derniers matchs, ça commence un petit peu à piquer. Xavier, là franchement, oui. Tu te retrouves 19e ce soir, oui. 3 qui a potentiellement l'occasion de prendre quelques points d'avance.
Et, enfin, les, bref, autres, et les autres.
Compliqué là, compliqué pour les Lillois quand même. Hein.
Ouais, mais maintenant on est arrivé à un point parce que bon, malgré tout, je parle pour pas non plus schématiser le public lillois aux quelques dizaines. Enfin, il y a quoi ? Dans ceux qui sont descendus sur le terrain, il y a 10 meneurs et les autres ont suivi bêtement. Mais il y a quand même Lille. Lille avait quand même, je pense, la dernière fois, il y avait 40 000 personnes la dernière fois au stade. Je veux bien, mais on parle de Marseille, du public de Marseille, etc., etc. Une équipe, Lille, il y a du spectateur, il y a des
alors,
spectateurs.
Tiens, Xavier, je te coupe deux secondes parce qu'on a oui. Nicolas Pépé, justement, le joueur lillois qui est en zone mixte en direct sur RMC, au stade Louis II.
Ça s'est vu aujourd'hui, on a mené au score, on a concédé cette défaite. Voilà, c'est dommage, mais voilà, on va essayer de continuer à travailler justement pour gagner nos 8 matchs restants.
Justement, on a un peu l'impression que le scénario se répète. Il y a des bonnes idées, il y a des buts, et puis souvent il y a un nul ou surtout des défaites au bout.
Oui, bien sûr, c'est justement, ça se répète assez souvent. Voilà, ce qui est assez dommage parce que voilà, on mène au score face des fois à des bonnes équipes. Voilà, aujourd'hui, on a mené au score face à Monaco. Voilà, ce qui n'est pas facile justement, et justement, ce qui pêche maintenant, c'est de tenir le score. Voilà, chose qu'on va travailler parce que voilà, on est une équipe assez jeune qui manque beaucoup d'expérience sur ce fait de jeu-là. Voilà, on va continuer à travailler, comme j'ai dit, et essayer de remporter nos matchs restants.
Comment fait-on pour garder la tête hors de l'eau alors qu'il y a...
Voilà, Nicolas Pépé, donc l'attaquant de Lille en direct sur RMC.
Et beaucoup se parler parce que c'est important justement rester solidaire dans ces moments-là parce que voilà, si voilà, chacun se sépare, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Maintenant, on essaie d'être solidaires les uns pour les autres, on essaie de s'entraider pour essayer d'avancer.
Gérer les événements.
Voilà, Nicolas Pépé, après la défaite de Lille ce soir au stade Louis II face à Monaco en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, on retrouve Xavier. On était en train de parler du calendrier, notamment de Lille d'ici la fin de la saison. Xavier, supporter de Lille, je te demandais un petit peu si t'étais inquiet. Juste, là, tu vas recevoir Amiens. Tu en parlais avec un stade qui sera complètement vide puisque c'est une mesure à titre conservatoire prise par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel hier. Donc ce match se jouera bien au stade Pierre-Mauroy, mais juste devant les journalistes.
L'avantage, c'est qu'avec Monaco, on a déjà eu une première idée de ce qu'était qu'un huis
clos.
C'est déjà
ça te permet de voir que t'es pas si mauvais que
c'est
ça
chauffé.
Contre dans des stades un petit peu vides.
C'est peut-être parce qu'il y avait encore un peu trop de spectateurs qu'on a perdu. Vraiment, avec personne peut-être. Et s'il n'y a pas de caméra, à mon avis, et pas d'arbitre.
Bon, en tout cas, juste après Amiens, tu iras à Bordeaux, tu vas aller à Marseille aussi d'ici la fin de la saison, tu iras à Toulouse, tu iras à Saint-Etienne, tu vas avoir des matchs pour le maintien contre Metz, contre Dijon, à domicile, contre Guingamp. Comment tu la vois cette fin de saison? Parce que, on va pas se mentir, il y a une instruction qui va être menée par, justement, la Ligue de football professionnel.
Bien sûr,
une décision définitive sera rendue le 5 avril. Alors, sans dire on y va tout droit, on peut tout imaginer.
S'il
y a déjà eu un match à huis clos, à titre conservatoire, Xavier, il peut y en avoir d'autres, voire je sais pas,
ensemble. C'est un ensemble. De toute manière, moi, faut quand même être assez lucide. Je veux dire, on sauve pas une saison en 8 matchs, surtout pas avec l'équipe qu'on a. On n'a pas une équipe pour se sauver, c'est tout.
Non,
on n'a pas une équipe pour se sauver.
Qui connaît pas qui vient de découvrir pour beaucoup de joueurs l'Europe.
Quand on entend Pépé, mais même Pépé qui dit on va travailler, tu travailles pas à 8 matchs de la fin, gars, on travaille plus, c'est terminé.
Il faut sortir et puis il faut y aller, faut aller au combat,
il
faut y aller.
Non, mais Xavier, j'ai l'impression que cette équipe, elle est malade, en fait. Quand tu les vois jouer, on dirait qu'ils sont amorphes, qu'ils mènent au score ou qu'ils sont menés. Regarde bien, ils ont exactement la même réaction. On sent pas du tout d'émotion dans cette équipe, alors qu'il n'y a pas plus beau dans le football et dans l'équipe. L'émotion de perdre, l'émotion de gagner, l'agressivité, la revanche.
Qu'est-ce que tu veux faire
j'ai l'impression qu'ils sont piqués et qu'ils gagnent ou qu'ils gagnent pas. Ils continuent à jouer et puis ils disent bon, on va travailler, on doit travailler parce qu'ils sont dans le même tempo.
Xavier, je te donne la parole.
Notre capitaine aujourd'hui, faut savoir qu'il y a une erreur. Sur le coup, on se rend pas compte. Mais on nous a vidé tous les anciens du club. Le capitaine, c'est Amadou. Amadou, il a 3 ans à Lille. Là, il vient de Nancy. Il n'a pas été formé, toi, à Lille. Amadou, qui est un joueur
besogneux.
Qui est besogneux, ça ne peut pas être ailleurs. ça peut pas être un leader technique. Ah, exemplaire, Amadou, il était parti. Quand tu penses quand même qu'au mercato d'hiver, notre capitaine à la dernière minute est à Londres pour signer avec Crystal Palace.
Sur le terrain, exemplaire, Xavier Amadou.
Non, mais je veux bien quand même l'état d'esprit. Notre capitaine, le dernier jour du mercato, prend l'initiative de prendre le train ça, pour aller
d'accord.
à Londres.
Je suis d'accord,
signer avec Crystal Palace.
Mais avec, sur moi, le terrain, il est là.
Mais l'exemplaire, il est encore heureux. Mais quand on voit que c'est notre capitaine, on nous a quand même sorti le nombre de joueurs. Mais rappelez-vous simplement des joueurs qui l'année passée ont été dans le loft. Ouais. Reprenez les joueurs qui avaient dans le loft qu'on a viré.
Qui avait d'autres encore.
Ouais, il y en avait un paquet.
Balmong, disparu aussi.
On remercie en tout cas Xavier, supporter du LOSC, d'avoir fait le 32-16. Très belle soirée à toi. Bon courage pour la fin de la saison. Il y a Alexen qui nous dit sur le hashtag RMC Live, j'ai toujours dit que Lille allait se maintenir car il y a de bons joueurs dans cette équipe, mais ça va être de plus en plus compliqué s'ils avaient aussi du mental, voilà. Galtier, il ne serait pas à cette place, nous dit-elle. Mais c'est sûr que Galtier,
il pensait sans doute trouver
une situation aussi un petit peu plus facile. Et c'était l'homme qui devait justement redonner du mental. Et ça n'a pas forcément été le cas.
Quand Galtier arrive, tu t'attends à la seule chose à laquelle tu t'attends, c'est qu'il solidifie l'équipe, quoi.
Ouais. Bah oui, c'est sûr.
C'est son marque de fabrique.
Pour l'instant,
la maladie est profonde.
La maladie est très très profonde, effectivement. À Lille, tiens, puisqu'on parlait de Radamel Falcao tout à l'heure, vous disiez, il avait autre chose en tête que la Coupe du Monde.
Elle était invisible.
La Coupe du Monde a déjà commencé. Sur AMC, semaine exceptionnelle. Le trophée de la Coupe du Monde sera dans Team Dugas, ce sera le mardi 20 mars, et dans le Super Moscato Show, ce sera le 21 mars. Semaine spéciale Coupe du Monde, messieurs, dames, sur RMC. Il y aura une soirée mardi soir, justement, ça tombe bien, sur notre antenne. Vous allez revivre la finale de la Coupe du Monde 1998. Voilà. Comme si vous y étiez le 12 juillet 1998.
Ça, c'est beau, ça.
Avec les commentaires de Jeannot et Séguet, avec toute la Dream Team qui sera mobilisée. Et puis France-Colombie, ça sera vendredi prochain, match amical justement avant la Coupe du Monde. Jean-Jacques Bourdin, voilà, il sera commentateur aux côtés de Jeannot et Séguet. Pas mal, ça. C'est vrai qu'il a commencé par faire du foot, Jean-Jacques Bourdin.
Oui, d'animer
les matinales
parce
sur
qu'il sent que Nîmes va remonter, c'est pour ça qu'on le voit.
Voilà, Nîmes qui est deuxième de la Ligue 2 après 30 journées. Dans un instant, on va parler de l'Olympique de Marseille dans l'after. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live pour répondre à cette question. On vous la pose d'ailleurs sur le Twitter de RMC Sport pour répondre à deux questions en fait. Est-ce que Leipzig, justement, c'est en bon tirage en vue d'une qualification éventuelle pour la demi-finale? Et l'OM peut-il gagner la Ligue Europa? On en débat dans un instant avec Ali Bellarbier et Jonathan Macardy, et donc avec vous dans l'after, 23h27.
RMC, le super football show. L'After Foot, Arnaud Souk.
Jusqu'à minuit, l'After sur RMC avec ce soir Jonathan Macardy et Ali Bellarbia. Dans quelques petites minutes, on parlera du cas de l'Olympique Lyonnais qui s'est fait sortir hier par CSKA Moscou, vous le savez, en Europa League, en 8ème de finale d'Europa League, une compétition dont la finale d'ailleurs se déroulera à Lyon, que les Lyonnais auraient forcément aimé jouer. Il y a eu des tirages au sort justement aujourd'hui des deux Coupes d'Europe, la Ligue des Champions. Je vous donne les affiches des quarts de finale. Le FC Barcelone qui jouera face aux Italiens de l'AS Rome, le FC Séville de Wissam Ben Yedder, justement, on en parlait tout à l'heure, qui sera opposé au Bayern Munich. Ça, ce sera le mardi 3 avril. Et puis le mercredi 4 avril, Liverpool, Manchester City. Et autre affiche, donc, le 3 avril, Juventus Turin, Real Madrid. Ça, c'est quand même une sacrée affiche entre deux des plus gros clubs, des deux clubs les plus historiques. Voilà.
Comme l'année dernière, la Juve prend le club qui élimine le PSG.
Ah oui. Exact. Je vous donne également le tirage au sort, évidemment, des quarts de finale de Europa League, parce que maintenant c'est ce qui va nous intéresser, nous autres Français, puisqu'il ne reste plus qu'un club français dans ce printemps européen. L'Olympique de Marseille qui a hérité donc des Allemands du Red Bull Leipzig. Match aller le 5 avril en Allemagne. Retour le 12 avril, ce sera pour le coup au stade Vélodrome, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Les autres affiches, Arsenal CSKA Moscou, au lendemain du boycott, vous savez, de la Coupe du Monde, boycott diplomatique des Anglais.
Ah oui,
la Coupe du Monde en Russie, c'est quand même assez savoureux de voir que le seul club anglais et le seul club russe se retrouvent en quart de finale. Ouais. L'Atlético qui recevra le Sporting. Alors ça, c'est une sacrée affiche aussi. Et puis la Lazio qui a hérité des Autrichiens du Red Bull.
Belle équipe, la Lazio.
Salzbourg. On va parler évidemment du Red Bull. Leipzig. Voilà. On va parler de celui qui nous intéresse, Leipzig. Et oui, Red Bull, c'est en Autriche. Donc c'est plutôt la patrie de Salzbourg en l'occurrence.
Ouais,
mais il sponsorise également Leipzig, vice-champion d'Allemagne, qui sera donc opposé à l'Olympique de Marseille. Alors, avant de savoir si l'OM peut gagner cette Ligue Europa, on vous a demandé si c'était un bon tirage sur le Twitter de l'After. Vous nous avez répondu, allez, en gros, à 50-50, 49% de oui, 51% de non. Vous savez quoi, on va aller voir tout de suite David Lorto en Allemagne, justement, notre drôle de dame spécialiste du foot allemand. Salut David!
Allô Fred, salut messieurs, salut
à tous. Abend.
Salut David.
Bon, dis-nous tout de cette équipe du Red Bull Leipzig. Je le disais, vice-champion d'Allemagne. Il y a une sacrée contingent de bons joueurs quand même dans cette équipe.
Ah oui, absolument. Alors il y a vraiment des inconnus clairement pour Marseille contre cette équipe-là, et donc ça va être un tirage dont on ne saura la qualité que à l'issue de la double confrontation. Pourquoi ? C'est une équipe qui dispute sa première campagne européenne de l'histoire. Elle n'a même pas 8 ans d'existence, cette équipe. Hein, ça, c'est quand même très important. Mm-hmm. Elle a fait une belle campagne de Ligue des Champions, troisième de son groupe, échouant d'assez peu pour accéder au huitième de finale. Et elle a donc été reversée en Europa League, où on aurait pu se dire, tiens, ça va terminer en roue libre parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ont de grandes ambitions. Pas du tout. On a considéré cette compétition, on a considéré à Leipzig que cette compétition était une chance, une opportunité de continuer à accumuler de l'expérience. Parce qu'effectivement, messieurs, il y a un énorme contingent dans cette équipe et dans ce groupe de très bons joueurs, mais avec une moyenne d'âge inférieure à 24 ans. C'était une moyenne d'âge qui était de 4 ans inférieure à l'adversaire qui a été éliminé cette semaine, à savoir le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est vraiment très impressionnant. Donc c'est une équipe, oui, avec de très très grands talents. On peut les citer, on les connaît, les principaux. Ils sont en attaque, par exemple, avec Naby Keita, avec Forsberg, le Suédois, avec Timo Werner, qui est en train de s'installer en équipe nationale d'Allemagne comme un titulaire sérieux aussi en attaque, et quelques autres. Et déjà, rien que sur le flanc offensif...
Et puis il y a Upamecano aussi,
qui est très bon.
Oui, alors ça, c'est le côté... Ouais. C'est le côté défensif. Là aussi, la jeunesse, Upamecano, c'est à peine 20 ans. Je crois qu'il est encore dans sa 19e année ou dans sa 20e année. Oui, voilà, dans sa 20e année. À côté de lui, le capitaine Villeurbanne est encore un tout jeune lui aussi. Donc ça, ce côté-là, on a eu l'occasion déjà d'en parler avec, par exemple, Jérôme Rotten sur certaines soirées européennes. C'est une équipe qui va manquer d'expérience à ce niveau-là, et qui est dans l'inconnu lorsque les tours vont passer à ce niveau-là de la compétition. Mais le talent, il y est, Arnaud, effectivement. Ouais. Et c'est ce talent-là qui, mêlé à cette jeunesse, la vitesse, la fougue, le jeu varié en attaque, la capacité à contrer, la capacité à construire aussi rapidement des actions, ça, c'est un problème évidemment à gérer pour l'OM.
Ouais. Tu parlais de Timo Werner, de Emil Forsberg également, international suédois, 32 bien, sélections, ouais. 6 buts. Une sacrée armada offensive. Moi, je veux bien que bon, ils n'aient pas l'expérience forcément de la Coupe d'Europe, ouais, mais enfin, à l'Olympique armada, de Marseille, on n'a pas non plus.
Armada.
Non, mais armada. Bah oui, on oui. Va, non, bah, Timo Werner, c'est 17 buts armada, cette
c'est
saison.
Une belle, non, mais on va être clair, c'est une
extraordinaire.
Belle,
non, mais c'est une belle équipe. Il y a pas de soucis cette année, mais c'est un joueur absolument
plus extraordinaire. Comme si on avait tiré. Voilà, bah, je préfère que c'est un meilleur tirage que l'Atlético. C'est un meilleur tirage que la Lazio. C'est un meilleur tirage qu'Arsenal. On soit bien d'accord.
Même que le Sporting. Tirage qu'Arsenal.
Oui, ça peut discuter. J'en conviens. Non,
si, ça peut se discuter.
Arnaud a raison, j'en conviens. Mais en revanche, quand t'arrives en quart de finale, voilà, t'es en Coupe d'Europe, forcément, tu vas prendre un adversaire de qualité. C'est vrai qu'il y avait peut-être d'autres équipes qui auraient été un peu plus simples à appréhender.
C'est peut-être le plus faible.
Mais voilà, t'es en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est sûr que l'adversaire va être de qualité. Après, quand je regarde, le 11 type qui nous était affiché sur BFM Sport, quand je repense au match que j'ai vu deux contre Monaco et les deux, trois matchs que j'ai vu deux en Bundesliga, eh ben, je suis désolé de dire que l'Olympique de Marseille me semble supérieur.
Alors justement, voilà. puisque David en parlait, il y a eu un parcours en Ligue des Champions, il y a eu une troisième place en phase de poule de Ligue des Champions devant l'AS Monaco. Justement, ils ont quand même battu Monaco à Louis II 4 buts à 1 après avoir fait match nul un peu partout.
C'est pas le même Monaco.
C'est pas le même Monaco.
Ils ont été meilleurs à Louis II que à domicile contre Monaco. C'est surtout ça. C'était pas le même Leipzig. Donc là, par contre, là, je pense ils sont très bien Leipzig. Mais la différence, c'est que Marseille va très bien. Maintenant, d'ici la confrontation, il faudra suivre un petit peu ces équipes. Pour l'instant, il va y avoir la trêve, on ne sait pas où on est. Marseille va aller très bien là. Oui. Leipzig se sent très bien. Mais à ces moments-là, il faudra pas faire d'erreurs. Mmh. Et il faut pas que Marseille fasse trop d'erreurs défensivement, parce que les attaquants de Leipzig, par contre, ils peuvent en profiter facilement.
On remercie David Lorto, notre correspondant en Allemagne.
Juste un dernier mot important. On pourrait se dire, Leipzig va essayer de viser une qualification européenne en championnat cette saison. Ils sont dans le peloton de tête, on le sait. Et peut-être qu'ils vont se concentrer plus sur la Bundesliga que sur l'Europa League. Et en fait, je crois pas. Je crois pas, parce qu'en fait, c'est une équipe qui vise à long terme et qui pourrait très bien digérer de pas se qualifier pour une coupe européenne en championnat cette saison. Mmh. Donc ça serait pas une bonne excuse et c'est pas un argument supplémentaire.
Ils vont la jouer à fond.
Oui.
Merci Salut. Beaucoup David Lorto pour toutes ces petites infos. On se retrouve évidemment dès qu'il se passe quelque chose en Allemagne. Notre débat maintenant, on vous attend 32-16 sur le hashtag RMC Live. L'OM peut-il remporter la Ligue des Champions? Premier concerné, la Ligue Europa, concerné évidemment, Adil Rami, joueur de l'Olympique de Marseille. On lui a posé la question hier justement après cette qualification en quart de finale.
On crache pas dans la soupe. Ce qui est bien, c'est que cette année, je sens une équipe avec une mentalité de compétiteur à vouloir gagner tous les trois jours, ou du moins essayer de vouloir gagner tous les trois jours, parce que c'est pas facile. Maintenant, je pense que ça a été fait. Maintenant, le plus important, c'est dimanche.
Bon, le plus important, c'est dimanche. Ce sera le match face à l'Olympique Lyonnais.
30 face à Jean-Kévin Augustin.
Voilà. Enfin, 30 d'abord face à l'Olympique Lyonnais, puisque c'est ce que nous dit Adil Rami. Attention. En clôture de la 30e journée de Ligue 1. Est-ce que l'OM peut gagner la Ligue des Champions, pardon. Est-ce que l'OM peut gagner la Ligue Europa? C'est la Coupe des Clubs Champions à l'époque. La Ligue Europa, c'est possible de la gagner cette saison?
Cette année, on dirait que ça pue l'Atlético Madrid. Ils la veulent vraiment. Donc on voit beaucoup plus l'Atlético Madrid la gagner qu'une autre équipe, même Arsenal, même le Sporting ou qui que ce soit.
Attention à la Lazio.
Et même si la Lazio est bien, l'Atlético est costaud. Donc Marseille déjà de se retrouver, je pense moi, dans le dernier carré, ça serait une très belle saison. Ouais. Pour l'Olympique de Marseille.
Bien sûr, mais si la question c'est est-ce qu'ils peuvent, bien sûr qu'ils peuvent.
Oui, parce qu'après tu sais jamais. Atletico, sur un match, tu sais pas ce qui peut se passer. Sur une finale,
en finale. Oui. Voilà.
Si tant est que t'as un parcours relativement abordable, je suis désolé, mais si tu hérites, pourquoi pas d'Arsenal en demi-finale.
Attention, Arsenal. On dirait qu'Arsenal ils sont bidons.
Non, mais finalement.
Non, mais quand les
joueurs, ils ont sorti une toute petite équipe. Oui, ils jouent plus que ça, mais ils ont sorti une toute petite équipe du Milan AC quand même.
Toute petite, t'exagères parce qu'ils vont mieux.
C'est une petite équipe.
Que ça soit pas le gradin,
mais si Arsenal se sent bien, je peux te dire, même si c'est l'Atlético face à un Arsenal qui est très bien physiquement et qui se sent bien, tout peut arriver avec cette équipe d'Arsenal.
Surtout,
c'est ça.
De plus avoir rien à jouer en championnat très rapidement.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, quand on regarde le tableau là qu'on voit sur BFM Sport, tu vois l'Atlético. Certes, allez, au-dessus, parce que il y a eu finale de Ligue des Champions.
Arsenal, ces dernières années. CSKA Moscou.
Mais franchement, après, c'est assez homogène quand même.
Arsenal, c'est au-dessus de CSKA.
J'ai du mal à les mettre au-dessus, honnêtement,
Arsenal. Non, mais Arnaud, c'est ce que je t'ai dit. En fait, le truc, c'est qu'ils vont, très rapidement, ils vont pouvoir jouer Arsenal. Donc, tu vois, ils seront concentrés là-dessus.
Tu dois avoir normalement Marseille, Arsenal, Atlético, Lazio. Voilà.
On va accueillir Louis, supporter de l'Olympique de Marseille, justement, pour lui poser cette question. Il a fait le 32-16. Salut, Louis.
Bonsoir à tous.
Bienvenue à toi dans l'After sur AMC BFM Sport. Alors justement, au-delà du match de Leipzig, est-ce que tu estimes que l'OM peut aller au bout cette saison en Europa League?
Alors oui, mais... Mais justement, vous avez dit au-delà du match de Leipzig, moi je voulais justement revenir un petit peu sur Leipzig, que je trouve qui est une équipe qui est un peu trop surestimée.
Voilà, merci.
Sixième de Bundesliga. Non seulement 6e de Bundesliga, mais depuis 2018, c'est 3 victoires en Bundesliga, 3 nuls en Bundesliga, 3 défaites en Bundesliga, 4 matchs sans victoire en Bundesliga ces 4 dernières journées, et ils vont accueillir le Bayern Munich ce dimanche. C'est pas une équipe qui m'impressionne particulièrement. Pareil, le bilan est très mitigé en Coupe d'Europe.
Ils ont sorti Naples
pour moi, genre le 3-1 à l'aller au Stade.
Non mais Naples allait lâcher la coupe, la Ligue Europa, ça tout le monde le sait.
Voilà, merci. Et le Zénith, ok, c'est peut-être pas rien, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas non plus extrêmement.
Non mais lui, on a dit du 50-50 parce que tu prends l'OM, ils battent Bilbao, j'ai jamais vu Bilbao jouer comme
c'est
ça au
pas,
football.
C'est pas un très bon Bilbao.
Non mais j'ai jamais vu l'Athletic jouer comme ça, même avec des joueurs pas connus avant. C'était très dur de les bouger. Là, que ça soit au Vélodrome très et que moyen. Ça soit chez eux, ça a été très moyen.
Même faible, c'était faible, on peut le dire.
Ça non, moyen, pas faible, parce que Marseille a fait ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que pour moi, ce tirage, c'est du 50-50.
Je comprends votre point de vue. Après, pour revenir à la question de base qui était, est-ce que Marseille peut remporter la Ligue Europa? Là où je dis oui mais, c'est parce que je fantasme entre guillemets le futur parcours que pourrait être celui de l'OM si jamais il venait à éliminer les Ptiches. Pour moi, affronter Arsenal en demi-finale serait l'idéal pour une raison très simple, c'est qu'entre la demi-finale aller et la demi-finale retour, eh ben il y a la réception d'un club à l'Emirates Stadium qui s'appelle Manchester United et que je doute que Arsenal se permette de vendanger une telle affiche. Donc, pour moi, c'est le meilleur moment pour Arsenal, c'est en demi-finale.
Et s'ils sont totalement largués pour la course à la Ligue des Champions.
Mais même s'ils sont totalement largués, c'est Arsenal.
Ouais, si tu ne restes pas, tu ne fais pas un match.
Si leur seule occasion d'aller en Ligue des Champions, c'est via la Ligue Europa.
Exactement.
Tu vois, Louis,
ils vont jamais larguer ça. Ils vont jamais larguer ça.
En tout cas, je vois que t'es extrêmement organisé, Louis.
Oui, mais j'ai tout pris.
Mais Louis, t'as raison. Moi, je trouve que c'est surcoté. On en fait toute une montagne. Les Psyches, c'est une bonne équipe, mais c'est pas non plus un ogre.
Mais ne passe pas de suite à la demi-finale. Attention.
Bon. Non, merci Louis.
Attention à les Psyches.
Jean-Kevin Augustin vient au Vélodrome.
On remercie Louis, général de l'Olympique de Marseille, d'avoir fait.
Merci les joueurs du PSG qui jouent contre l'OM. Aïe, Jonathan.
On remercie Louis d'avoir fait le 32-16. Très belle soirée à toi, Louis, supporter de l'Olympique de Marseille. Je révèle que Louis, il habite à Paris. Pas. Supporter de l'OM.
Marseille est un club universel.
Mais oui, je sais. C'est pour toi. C'était une petite passe décisive que je t'ai faite. Dans un instant, on va parler de l'autre Européen de la semaine, Européen déchu pour le coup, l'Olympique Lyonnais, qui a été éliminé au terme d'un match presque. J'ai envie de dire qu'ils auraient jamais dû perdre les Lyonnais. En tout cas, c'était une double confrontation assez étonnamment bradée de la part de l'OL. Voilà, complètement surpassé finalement par les Russes du CSKA à Moscou. Ça fait très mal à l'Olympique Lyonnais qui, en plus d'être largué en Ligue 1, est donc désormais éliminé de la Ligue Europa. On va se demander qui sont les responsables. Tiens, je vous donne aussi quelques petites infos sur votre week-end sur RMC parce que vous aimez le foot, mais je suis sûr que vous aimez aussi le rugby. Week-end spécial rugby sur RMC avec la suite et la fin du tournoi des 6 nations. Galles-France, c'est demain à 18h sur RMC. Vous suivrez également toutes les rencontres de la 21e journée du top 14 de rugby avec notamment 14h45 ce match demain entre le Racing 92 et le Stade Français. Et oui, c'est un derby, il en existe en rugby. 23h45, l'after revient tout de suite sur RMC BFM Sport.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Arnaud Souk.
23h48, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans l'after sur RMC en simultané sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur l'after, vous avez le son et l'image avec Jonathan McCarthy, avec Ali Benarbia. Ce soir on vous attend 32-16 et sur le hashtag RMC Live évidemment comme d'habitude. Parlons peu, parlons bien, parlons de l'Olympique Lyonnais parce que bon, on a suffisamment parlé de l'Olympique de Marseille, donc dernier escapé français en Coupe d'Europe cette saison, quart de finaliste de l'Europa League. Lyon qui s'est fait sortir en revanche par le CSKA Moscou qui a contre Arsenal en quart de finale. C'est un petit peu la crise quand même du côté de l'Olympique Lyonnais parce que en plus de compter désormais 5 points de retard sur l'OM, sachant qu'il y a la confrontation directe dimanche soir au Vélodrome,
qui va coûter très cher,
qui pourrait peut-être coûter 3 points de plus,
oui,
ou 3 points de moins, j'en sais rien, mais enfin en tout cas c'est quand même une sale saison parce que Lyon a pour ambition de se qualifier comme d'habitude pour la Ligue des Champions. Depuis 20 ans ils n'ont jamais raté 2 saisons d'affilée. Bah, pour l'instant ça en prend quand même le chemin de manière assez, assez inexorable, Jonathan.
Ouais. Bah écoute, je pense que le club il est... J'avais envie de dire que le club est malade, mais en fait, je pense que le club connaît une grave crise, non pas sur qui a son origine, non pas sur le côté sportif, mais c'est une crise de gouvernance. Je pense que le projet lyonnais a été mal défini cette saison. Alors oui, tu fais le pari de vendre tes cadres, tu vends Tolisso, tu vends Lacazette, tu recrutes une flopée, une palanquée de jeunes talentueux, mais va au bout de ton idée. Si le bout de ton idée, c'est de t'ouvrir aux autres, de vendre un petit peu les bijoux de famille et de recruter à l'extérieur, alors qu'auparavant, t'avais l'habitude de
vendre. Parce que t'as pas le choix.
Ouais.
Aussi, hein.
Mais derrière, avant t'avais l'habitude de t'appuyer sur des jeunes du centre de formation. Là, tu décides d'acheter quand même des joueurs qui coûtent quand même de l'argent. Et donc, dans ce cas-là, va au bout de ton idée et prends un coach qui vient aussi de l'extérieur. Prends pas.
Non, mais alors moi je suis d'accord avec toi.
La nounou qui met à l'aise les jeunes du centre.
Pourquoi
mais
tu
va au bout de ton idée.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Même Genesio.
C'est un problème de politique sportive.
Non, mais c'est un problème Genesio. Tu peux pas reprocher, là, pour le coup, à Jean-Michel Aulas aussi d'avoir fait comme il l'a fait à certaines reprises, de recruter à l'extérieur. C'est pas la première fois qu'on l'Olympique Lyonnais.
T'écoutes pas ce que je dis.
Si, tu as dit, il n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement.
Eh ben oui, son raisonnement, c'est si tu recrutes des jeunes de l'extérieur, tu changes le coach.
Jonathan, pour moi, ça n'a strictement aucun rapport. À plusieurs reprises, l'Olympique Lyonnais, ces dernières années, a recruté des joueurs à l'extérieur et les a mêlés à des joueurs du centre de formation parce qu'il n'est pas nouveau.
Sauf que là, le centre de formation, jamais à cette échelle-là.
mais jamais à cette échelle-là. T'as pas non plus eu une quantité industrielle de joueurs. T'as qui? T'as Mariano, t'as eu Traoré.
T'as eu Marcelo, il y a eu Mendy, il y en a eu énormément, t'as un renouvellement obligatoire.
T'as pas non plus.
Mais dans ce cas-là, prends un coach ambitieux.
C'est pas un coach ambitieux, c'est que tu vas pas prendre un coach pour prendre un coach. Ça, c'est déjà une chose. Et je pense, Jonathan, que il croyait que progressivement, Juninho allait venir. Moi, je pense dans sa tête. Puis Juninho n'est pas aussi pressé que ça, apparemment. Après, deuxièmement, tu sais pourquoi d'un coup il y a un changement avec ces transferts onéreux, surtout offensivement? Parce qu'il s'est passé quelque chose en Ligue 1 entre le PSG Qatari, les Monégasques avec les Russes, et en plus Marseille qui vient s'y mettre avec ma courte. Ola s'y dit, ça y est, ma tactique à moi, mon système que j'allais être le plus grand club de France, ça y est, le jeu de cartes qui tombe à l'eau complètement. Je vais rester le quatrième roue du carrosse, qui est le cas en ce moment, en fait.
Mais c'est pas un reproche. Hein,
et le problème, c'est qu'au moment où tu penses, où tu brilles, où que tu es bon, avec un Fekir bon, des beaux joueurs, ben tu te rends compte que ça va pas trop. En plus, Fekir se blesse au mauvais moment et ça va te coûter très cher maintenant.
Le problème, Ali, c'est que tu vois, regarde, franchement, la saison dernière, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Genesio, il doit jamais survivre à la saison dernière. T'es Lyon quand même. T'es Lyon, tu finis quatrième. T'as un nombre de défaites qui est considérable.
Mais regarde, il survit et tu repars sur la saison. Et arrivé un certain temps, tout le monde disait que ça se passait bien.
Et tout le monde disait que ça se passait bien. Et je suis désolé, Jonathan, de te décevoir, mais je l'ai pas rêvé, je l'ai pas cauchemardé, si tu veux. Il y en a certains qui ont.
Oui, c'est pas certains disent des conneries.
Au mois de janvier, certains qui disent des conneries très bien placés. Certains se sont demandé si finalement Genesio n'était pas le meilleur coach de Ligue 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de la désillusion européenne face au CSKA à Moscou, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, il s'est rendu ce matin au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais pour rencontrer justement des dirigeants du staff technique. Il était également le président invité de l'Arkey Foot cet après-midi sur RMC, et il s'est prononcé justement sur l'avenir de son coach Bruno Genesio.
C'est un Bruno Genesio qui est touché parce que d'une part il a le sentiment d'avoir des joueurs de qualité et puis quelquefois des joueurs qui ne se rendent pas compte qu'on laisse passer des opportunités de réussir de belles performances. Ça a été le cas en Coupe de France, puisque on était en quart de finale à Caen. Alors c'est vrai qu'on a joué tous les matchs à l'extérieur, y compris contre Monaco, contre Montpellier, qu'on avait éliminé. Mais c'est vrai qu'il fait son métier du mieux possible. C'est extrêmement lourd et il a besoin d'être soutenu, ce que j'essaye de faire.
Voilà, il a en tout cas affirmé, Jean-Michel Aulas, que Genesio ne partirait pas avant la fin de la saison. Genesio qui, visiblement, lui non plus, voilà, aujourd'hui s'est exprimé conférence de presse. Il est touché, mais enfin bon, il garde la tête haute et lui aussi a réaffirmé son souhait justement de rester. Alors, bon, moi je suis quand même un petit peu d'accord avec toi, Jonathan. En tout cas, je me pose la question, est-ce qu'au bout d'un moment, Ali, c'est pas aussi une question de discours qui passe plus? Je te donne la parole juste après avoir questionné Nicolas qui a fait le 32-16 supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Salut Nicolas.
Responsable Aulas ou Genesio, ou les deux?
Alors ça fonctionne comme une pyramide, un club, c'est-à-dire qu'en bas il y a le terrain et en haut il y a le président. Donc si on parle de l'élimination d'hier, c'est le terrain qui est coupable parce que il y a certains joueurs qui ont été défaillants. Ils l'ont toujours été, mais là, clairement, je veux plus qu'on les voit. Cornet en tête. Si des KLS sur Mariano qui ont marqué 1-0 à la mi-temps, ça change déjà psychologiquement le match. Donc pour le coup, pour moi, on perd à cause de ça. On perd pourquoi? Parce que Genesio s'est planté dans sa compo, a mis une équipe bis en mettant Cornet pour Traoré parce qu'il pensait peut-être déjà au match de dimanche.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Du coup, on attaque avec une équipe bis et du coup, en pensant peut-être que les Russes étaient déjà arrivés en perdant, ce qui n'était pas le cas. Donc là, pour le coup, c'est Genesio. Mais qui met Genesio à ce poste? C'est Aulas, parce que c'est lui le patron, c'est lui le président. Donc il s'est planté, il va pas dire le contraire là, parce que là clairement, si on est entre les lignes, je pense que Genesio il s'en va à la fin de la saison, mais pour le coup c'est Aulas qui de par sa communication outrancière sur Twitter crispe ce club, lui donne une image négative et qui en plus a fait les mauvais choix tout simplement.
Et c'est pas qu'il le met en début de saison, hein, c'est qu'il avait déjà mis l'année dernière avec le nombre de défaites et la place qu'on connaît. Bon, ça l'erreur.
Je te redonne la parole pour terminer. Juste Ali, on remercie Nicolas d'avoir fait le 32-16. Pour toi, est-ce que Genesio, au moment, on doit dire stop, le discours ne passe plus, ou est-ce que c'est aussi là, il le souligne justement, hein, ce supporter, peut-être aussi la communication outrancière, c'est ce qu'il a dit de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça cause pas
arrive
du temps à son
un
propre
moment,
club?
On donne trop de crédit à l'entraîneur. Tu as des entraîneurs qui ont ce crédit-là et ils ont une façon de travailler et c'est visuel sur le terrain. Mais ce n'est pas tous. Après, de manager un effectif, c'est bien. Mmh. Il a essayé de donner un petit peu à tout le monde le temps de jeu, aussi bien de paye comme de Traoré, d'être bien et tout. Mais arrive un moment, les joueurs, et j'ai été joueur, le rendre sur le terrain pour le coach. Quand il fait jouer Memphis Depay qui était pas content d'être sur le banc dans un match aussi important, tu le montres par des moments, il marchait sur le terrain. Mariano, il a pensé pratiquement à sa gueule tout le temps, et arrivé un moment on se retrouve avec pratiquement des joueurs qui pensaient qu'à leur gueule, à faire la différence en pensant, on va quand même se qualifier. Ben, tu le payes très cher.
Et l'Olympique Lyonnais qui jouera donc en clôture de la 30e journée de Ligue 1, une partie de son avenir.
Ils sont capables de
dimanche
faire,
soir face à Marseille.
Dans les grands matchs, c'est le genre de joueur,
merci Jonathan Macardy, merci Ali Belarabia. Je vous rappelle la victoire de Monaco donc en ouverture de cette 30e journée de Ligue 1 ce soir, de Buzyn face à Lille. Monaco, dauphin du PSG, qui jouera dimanche à 13h sur la pelouse de Nice. Oui, vous avez bien entendu, ce sera à 13h horaire, voilà, pour permettre notamment au match d'être diffusé en Chine avec le décalage horaire. 23h57, l'after revient demain évidemment après tous les matchs de Ligue 1, les matchs de 20h, Montpellier-Dijon, Angers-Caen, Toulouse-Strasbourg, Amiens 3. Jonathan,
Patrick Samarit.
Ça veut dire?
Ben, je vais être un Patrick et on avance.
Ah bah oui, alors ça, faut pas trop le dire fort.
Green Day.
Allez, belle soirée sur RMC.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.